Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Comme à chaque élection présidentielle en France, le débat sur la légalisation du cannabis revient sur le devant de la scène. Le meilleur moyen de lutter contre le trafic de drogue, selon les partisans de la mesure. Mais le travail d'une économiste française va encore plus loin. Dans « Pour en finir avec les mafias et si on légalisait », Emmanuel Auriol, qui est avec nous, vous allez l'entendre, plaide pour la légalisation de plusieurs marchés interdits, drogue, mais aussi sexe et clandestin, des marchés qui représentent en 2009, selon les chiffres qu'elle cite dans son ouvrage, 870 milliards de dollars, ce qui est plus que le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique. Une thèse qui va globalement à l'encontre de la tendance actuelle, en tout cas en France. Répression contre les passeurs, les dealers, et puis en matière de prostitution, pénalisation du client, c'est la mesure phare de la loi entrée en vigueur en France il y a quelques semaines. Alors, drogue, clandestin, prostitution, faut-il légaliser les marchés interdits? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai donc le plaisir d'avoir deux invités en direct de Toulouse. Emmanuel Auriol, bonsoir.
Bonsoir Anne, bonsoir Lorraine.
Vous êtes économiste, enseignant, chercheur à la Toulouse School of Economics et puis auteur du livre qui nous a inspiré ce débat pour en finir avec les mafias, sexe, drogue et clandestin et si on légalisait, un livre paru aux éditions Armand Collin. Puis à mes côtés en studio, la deuxième invitée, Lorraine Questieux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate, chargée de mission aux affaires juridiques du mouvement du NI, une association qui milite pour l'abolition de la prostitution. Alors mesdames, je voudrais qu'on se concentre dans le débat de ce soir sur la prostitution, puisque 20 minutes, c'est court pour aborder peut-être l'ensemble de tous ces trafics. Emmanuel Auriol, vous prononcez donc pour la légalisation dans votre livre, avec des conditions, on va y revenir, dont un prix d'éviction. Mais d'abord, comment expliquez-vous que vous êtes à contre-courant avec les dernières décisions qui ont été prises en France? Est-ce que pour vous, cela veut dire que la pénalisation des clients de la prostitution n'a pas les effets escomptés?
Alors, non, pas du tout. Dans le livre, en fait, ce que je propose, c'est une légalisation avec un statut du type profession libérale pour des prostituées et en même temps de maintenir la criminalisation des clients, qui a été expérimentée notamment en Suède et pour laquelle j'avais pris position, parce que ça permet de lutter contre les abus, notamment vis-à-vis des prostituées clandestines. Donc, l'idée serait que les clients ont à charge de vérifier le statut légal des prostituées qu'ils emploient et peuvent être poursuivis, voire même mis en prison, comme en Suède, s'ils emploient des services de prostituées clandestines.
Oui, parce qu'il y a un argument que vous citez dans votre livre, vous le dites, il y a moins de prostituées en France qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas aujourd'hui, où il y a une forme d'encadrement.
Tout à fait. Le problème de ce marché, donc si le but c'est d'affaiblir les mafias, ce qui est très souhaitable en matière de prostitution, les victimes les plus abusées sont celles qui sont en main des mafias. Eh bien, si on légalise bêtement, si on se contente de dire « maintenant c'est légal », le problème, c'est que ça ne supprime pas du tout les mafias. En fait, ça augmente la demande et du coup, il y a une expansion du marché. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, c'est ce qui s'est passé en Hollande. On a à la fois la coexistence d'une prostitution légale et d'une prostitution clandestine épouvantable. Donc, ça, c'est pas du tout une solution souhaitable de mon point de vue socialement. Et donc, si je dois choisir entre ça et la Suède, je prends la Suède.
Alors, Lorraine Questieux, je vous vois faire oui de la tête. On va peut-être commencer par un point d'accord. Vous êtes d'accord là-dessus avec ce que vient de nous dire Emmanuel Auriol?
Absolument. C'est l'exemple des Pays-Bas et de l'Allemagne a démontré en effet que réglementer la prostitution était en réalité quelque chose d'impossible, mais pas uniquement parce que ça augmente la demande, mais aussi parce que créer en fait un régime légal et un régime illégal l'un à côté de l'autre, c'est en réalité rendre effectivement impossible la poursuite de la criminalité, parce qu'en fait la charge de la preuve est inversée. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un marché légal, toute la prostitution, la drogue, ou en tout cas tout ce marché, est présumé légal. Et donc, il appartient en fait aux procureurs, aux enquêteurs, de démontrer qu'il s'agit en réalité de biens illégaux ou de prostitution illégale. Et donc, finalement, ce à quoi ça aboutit, c'est que ça permet aux proxénètes d'avoir pignon sur rue, ça permet au marché clandestin de prospérer, et c'est ce qu'on a pu remarquer, et notamment il y a des rapports de l'ONU qui de 2007 qui démontrent que les Pays-Bas sont le pays d'Europe où il y a le plus de victimes de traite des êtres humains, et c'est le pays qui a opté pour le réglementarisme.
Alors pour autant en France, donc on a pénalisé les clients avec cette dernière loi, il y a l'AFP qui il y a quelques semaines était allée, l'agence France Presse, recueillir des témoignages de prostituées dans le bois de Boulogne, et certaines d'entre elles disaient que du coup elles avaient moins de clients, donc qu'elles étaient précarisées, et que les clients étaient, ceux qui restaient étaient les plus violents, et qu'elles étaient contraintes de les accepter. Alors est-ce que ça ne tempère pas un petit peu votre raisonnement, Lorraine Questio?
Je pense pas que ça tempère le raisonnement, c'est-à-dire que la violence qui est inhérente à la prostitution, justement, c'est important d'en parler. C'est qui sont ces clients, qui sont ces personnes qui viennent en fait dégrader des personnes prostituées. En effet, il y a énormément de violence, c'est inhérent à la prostitution et c'est la raison pour laquelle nous condamnons la prostitution au sens large, pas simplement la prostitution qui se déroule dans le cadre des réseaux de traite des êtres humains ou des réseaux de proxénétisme, mais toute la prostitution, puisque la violence, c'est aussi le fait de céder son corps non désirant au désir individuel d'une autre personne qui l'achète parce qu'il a de l'argent. Et on voit bien que là, il y a un déséquilibre qui s'installe, qu'il y a en fait une exploitation totale du corps des êtres humains. Et donc, c'est aussi ça la question qui est posée par ce genre de dialectique, à savoir est-ce qu'on considère que l'exploitation des personnes peut être un marché légal. En fait, ça vient à poser l'autre question, c'est est-ce que le corps des personnes, leur intégrité, peut être cédé. Et le droit français répond par la négative pour l'instant, et j'espère que ce sera toujours le cas.
Emmanuel Auriol, une réaction à ce que vient de vous dire Lorraine Questio.
Là je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Lorraine. Je partage bien sûr sa vision du respect de la personne humaine, hein, mais c'est pas vrai qu'il y a des prostituées qui sont toutes victimes de violences. Il y a des études. Alors le problème qu'on a, hein, puisque c'est illégal dans la plupart des pays du monde, c'est des problèmes d'observation. On observe essentiellement la prostitution de rue. Or celle-ci représente 10 à 20% maximum, hein, de la prostitution totale. La plupart des prostituées exercent sur Internet. Et il y a des études très sérieuses que je cite dans le livre, donc de professeurs, notamment le professeur Sanders qui est à l'université de Leeds en Angleterre, et une autre chercheuse qui est aussi sociologue au Canada, qui ont interviewé donc des prostituées qui travaillent sur Internet. Et contrairement à ce que vient de dire Lorraine, hein, ces personnes l'ont choisi librement. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'elles avaient avant un travail, qu'elles ne sont pas clandestines, qu'elles ont droit au minimum sociaux. La plupart sont éduquées, elles ont un niveau bac, dans 97% des cas, dans l'étude de Sanders, il y a des hommes et des femmes bien sûr dedans. Et 38% un diplôme d'université. La raison pour laquelle elles ont changé d'activité, donc elles étaient dans la santé, la plupart l'éducation et les services de charité, elles évoquent la flexibilité du travail, elles peuvent s'organiser comme elles veulent, et elles trouvent que c'est relativement gratifiant dans 56% des cas. Ce qu'elles détestent, c'est le stigma social qui est associé à cette activité, et voilà, et donc le fait qu'elles doivent se cacher absolument de tout le monde, vu que personne ne considère qu'on peut faire ça dignement. Donc moi, ça me perturbe beaucoup de condamner ces gens en disant non, c'est des malades mentaux, ils ont, je sais pas, une espèce de syndrome de
souffrance. C'est pas du tout ce qu'on dit, c'est vous qui le dites là.
Alors oui, non mais juste Lorraine, question sur cette question des prostituées qui exercent librement et en conscience, en volonté leur activité, quelle est votre position? Et ensuite, on en arrivera à votre développement économique, Emmanuel Auriol.
Justement, le fait de fonder l'intégralité en fait de cette réflexion sur l'idée qu'il pourrait y avoir cette prostitution heureuse et épanouissante, nous, notre association, et c'est ce qu'on a porté, hein, c'est la raison pour laquelle aussi cette loi elle a vu le jour, c'est parce qu'avec une approche purement matérialiste, hein, purement objective, hein, de la question de la prostitution, nous, ce que l'on constate, sans se fonder sur des études comme ça qui sortent, c'est pas des vraies études, nous, c'est des études officielles de l'IGAS, donc c'est des médecins qui se sont penchés sur la question. L'espérance de vie dans la prostitution, c'est 43 ans. Le fait de céder son corps, en fait, contre de l'argent de manière répétée, c'est une violence. Vous l'avez bien rappelé, les clients très régulièrement frappent, voire tuent les personnes prostituées, puisque quand on vient acheter, en fait, le corps de l'autre, on estime que, du coup, ce corps nous est dû et qu'on peut absolument en faire tout ce qu'on veut. Et que la prostitution soit dans les bois ou qu'elle soit dans les plus grands palaces, l'affaire Carlton l'a montré, puisqu'on a bien parlé de viol au Carlton, alors qu'on était sur des draps en soie. Donc on voit bien qu'en réalité, la violence, elle est intrinsèque à la prostitution, et peu importe l'endroit où cela se produit. Qu'il y ait encore des personnes pour dire que, voilà, elles sont prêtes à faire cette activité, nous, on ne les en empêche pas. Par contre, ce que notre association constate depuis plus de 70 ans, c'est que toutes ces personnes subissent des violences régulièrement, que c'est inadmissible, et qu'il y ait hors de question générer du profit sur la vulnérabilité d'autrui.
Emmanuel, alors, une réponse rapide, je voudrais qu'on en vienne à votre démonstration économique. Allez-y.
Oui. Quand on est dans la clandestinité, évidemment qu'on est vulnérable. Et c'est bien moi la chose qui me préoccupe. Alors j'ai beaucoup de respect pour le travail du NID. Hein. C'est pas et j'ai d'ailleurs je cite certaines de vos études dans mon livre. Mais moi je pense que on peut pas faire avancer ce débat si on nie qu'il y a des gens qui sont libres et qui font ça librement. Et ça je crois que c'est vrai. Après. Elles ont des problèmes, notamment de reconnaissance, parce qu'elles sont dans la clandestinité. C'est quelque chose qui n'est pas accepté
mais
socialement.
C'est ça, c'est pas du tout la clandestinité qui crée leur vulnérabilité.
Si, d'être dans l'illégalité.
Non, parce que justement, en Allemagne, elles sont pas en clandestinité. On leur a donné la possibilité d'avoir accès, justement, à un certain statut, à une certaine protection sociale. Et sur les 350 000 personnes prostituées, il y en a que 4 qui sont enregistrées et qui donc bénéficient de ces droits. C'est ce qu'on comprend en réalité. C'est que, évidemment, les personnes qui s'orientent vers la prostitution sont soit majoritairement orientées de force, soit s'orientent parce qu'elles sont dans une grande précarité et qu'elles ont un passé aussi, puisque nous, c'est ce qu'on recueille comme témoignages, qui font que leur corps, elles sont prêtes à le céder. Et je pense que c'est aussi ça la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'une société doit faire par rapport à ces personnes qui sont dans ces situations de précarité-là? Est-ce qu'elle doit en profiter, en générer un profit sur le marché de la misère, à savoir sur les migrants qui savent pas, qui fuient leur pays en guerre, ou sur les personnes vulnérables qui sont souvent majoritairement des femmes ou des personnes issues de minorités. Donc il y a aussi une question de racisme, une question de sexisme qui se cache derrière, qui est d'ailleurs reconnue par les textes internationaux.
Voilà.
Hein.
Ou est-ce que l'État ne doit pas en profiter?
Ou est-ce que l'État doit au contraire pourvoir à des mesures pour protéger les individus, éradiquer la misère et faire en sorte que plus personne n'ait à se
Emmanuel
pencher
d'accord.
sur ces...
Votre mais réponse, vous proposez une autre approche, une approche économique. Alors, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu?
Oui, moi, il n'y a qu'à Faucon, je trouve que ça ne marche pas. Bon, on peut dire on continue comme ça. Il y a quand même des prostituées, et donc c'est terrible, parce qu'effectivement, elles sont exploitées. Il y a des jeunes femmes qui sont enlevées à leur pays et qu'on met sur le trottoir chez nous, qui sont droguées, tabassées, violées. Je trouve ça inadmissible personnellement. Alors, on peut laisser ça comme ça, mais avoir une position en disant non, c'est très mal moralement, ou on peut essayer de voir s'il y a des solutions alternatives qui permettent de reprendre le contrôle. Et là, on n'a pas du tout de contrôle sur cette situation.
Pour l'instant. Alors, votre solution alternative ?
Donc moi, ce que je pense, c'est après avoir regardé l'ensemble des marchés prostitutionnels du monde, même dans les pays où il y a la charia, où on peut être lapidé pour son activité, il y a quand même de la prostitution. Donc c'est très très difficile à contrôler. Une chose qui marche, hein, c'est de taper sur les clients. Donc c'est des politiques de la demande, c'est-à-dire il faut et aussi de les éduquer. Donc ça, je cite ces études dans le bouquin. Aux États-Unis, on a fait ça, en Angleterre, on fait ça. Il y a des stages et faire prendre conscience aux clients qu'effectivement c'est pas des choses, mais c'est des personnes humaines qui sont là effectivement pour les aider dans leur intimité. D'ailleurs, le NID a fait des travaux sur les clients et moi j'ai trouvé ces travaux relativement intéressants parce qu'on apprend des choses. C'est pas tous des monstres qui tabassent les femmes, c'est pas vrai. Et donc cette idée que on pourrait améliorer la situation en la rendant légale et en particulier en faisant une politique de prévention auprès des clients, en leur disant la prostitution c'est pas un acte banal, donc c'est très cher. Donc quand on y va, on accepte de le faire dans certaines conditions. C'est des personnes qui vous
et
devez
alors,
respecter.
Et justement sur le prix, Emmanuel Auriol, vous dites il faut des tarifs bas pour jouer sur le marché. Alors c'est-à-dire?
Ah non, alors c'est ça le problème de la prostitution. C'est pour ça que j'ai bien précisé en début d'émission que ça suffit pas de dire on légalise pour assécher le marché. En fait, si vous légalisez, que vous faites rien de plus, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une augmentation de la demande, c'est ce que fait la légalisation, toujours. Et donc, vous allez avoir une prostitution légale qui va coexister à côté d'une prostitution illégale. Et pour sauver leur part de marché, les mafias, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont tabasser encore plus ces pauvres filles, elles vont les mettre dans des conditions encore plus épouvantables, et elles vont devoir accepter des passes à 5 euros, à 10 euros, ils s'en fichent. Du moment que ça couvre le sandwich qu'elles mangent, ça leur va très bien. Donc ça, c'est pas une solution du tout acceptable. Il vaut mieux encore la prohibition. Mais il y a une solution intermédiaire, parce que quand même dans la prohibition, il se passe que la prostitution est toujours là et que ces pauvres femmes sont vraiment sans droit. Donc une solution intermédiaire, ça consiste à combiner la légalisation avec la répression par les clients. Et donc c'est là où moi j'insiste, c'est que employer les services d'une prostituée clandestine, et c'est quand même pas très dur à comprendre quand c'est bon marché, C'est ça l'éducation. Quand elle n'a pas de carte professionnelle, et je pense qu'on peut lutter contre le travail au noir, contrairement à ce qu'a l'air de penser Lorraine, il n'y a pas de gens qui exercent la médecine de manière clandestine. Ça pourrait, mais ils ne le font pas, ou pas trop. Bon, mais ça pourrait être la même chose. Donc les clients doivent avoir conscience que c'est cher, que ces femmes doivent être dans des conditions visibles, pas cachées dans des lieux interlopes. Et tout autre arrangement montre qu'ils emploient
n'est pas du tout d'accord avec vous, mais je pense que vous nous avez déjà un petit peu dit pourquoi. Je voudrais juste vous demander quand même sur la nécessité peut-être de changer un petit peu de spectre, une approche plus économique, plus pragmatique, plus scientifique. Ça ne vous séduit pas du tout ?
Absolument pas. D'ailleurs, je pense que c'est un peu le problème de ces études qui se focalisent sur le passé et sur ce qui s'est passé dans le monde. C'est mal comprendre, en fait, justement, le changement radical de paradigme que l'abolition promeut, à savoir, justement, pas simplement une approche du résultat instantané, mais bien, en fait, une volonté d'aller vers le progrès et de lutter pour les droits fondamentaux, à savoir pour l'égalité femmes-hommes, et dire que non, le corps des femmes, même s'il est payé très cher, n'est pas sur le marché. Le corps des êtres humains ne peut pas être monnayé, puisque l'intégrité physique est importante. C'est de dire aussi que l'intérêt général, la raison pour laquelle il existe justement une société, c'est le bien-être des individus, c'est les droits fondamentaux, et ce n'est pas de trouver un moyen de rationaliser, d'équilibrer les budgets.
Oui, vous situez sur un terrain plus moral.
Mais c'est pas moral, c'est absolument pas moral. C'est matérialiste, c'est-à-dire que... Mais non, c'est pas moral. Les droits fondamentaux, ce n'est pas quelque chose de moral. La raison pour laquelle les droits fondamentaux existent, l'intégrité physique, le droit à la vie, le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est parce qu'on s'est aperçu de manière extrêmement pragmatique et scientifique que détruire le corps d'une personne, ça a des impacts sur l'ensemble de la société, c'est un coût économique et social aussi que nous on a mesuré.
Je crois qu'on ne vous réconciliera pas ce soir, je voudrais juste qu'on ait un mot sur la prolongation de votre réflexion, Emmanuel Auriol, sur le trafic des clandestins. Vous restez dans vos clous, une réflexion économique. Vous expliquez, je vous cite dans votre livre, page 145, « Puisque les politiques répressives de contrôle des frontières et d'identité ne sont pas efficaces, une idée naturelle est d'utiliser des instruments tels que les prix et les marchés pour les éliminer. La vente de visas serait une manière de lutter contre le business des passeurs. » Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer en quoi consisterait votre mesure ?
Oui, donc on assiste là aussi à des situations épouvantables qu'on a pu évidemment tous voir à la télé. Alors, il faut bien distinguer...
Et à la radio, rapidement, parce qu'il nous reste plus de 2 minutes.
Pardon. Oui, donc le problème, c'est que à l'heure actuelle, on mélange tout. C'est-à-dire il y a des immigrés qui sont des immigrés économiques, et je parle de cela dans mon livre. Ce qu'on voit à la télé, c'est des réfugiés qui ont des droits et qu'on doit accueillir en droit international. Donc, c'est un peu délicat de les mélanger. C'est pas la même chose. Pour ce qui concerne les réfugiés, les émigrés économiques, donc qui viennent pour travailler, et c'est bien naturel, les entreprises les emploient. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie dans notre système puisqu'on les laisse rentrer pour les exploiter. Et il y a des secteurs entiers qui prospèrent grâce à eux, notamment les services, la construction, l'agriculture. On en a besoin, mais les électeurs n'en veulent pas. Et donc, l'équilibre qu'on a trouvé collectivement, c'est de dire, on fait semblant d'être très sévère, on en laisse rentrer quelques-uns, et ils sont sans droit, vulnérables.
Et pour vous, c'est contre-productif, ça pourrait être plus productif économiquement si on vendait donc des visas, c'est ce que vous nous dites.
Surtout, ça serait beaucoup plus propre, plus humain. Enfin, je trouve ça scandaleux, moi, de laisser des gens se noyer pour venir travailler comme des esclaves chez nous.
Je crois que là aussi, Lorraine Question n'est pas du tout d'accord avec vous.
Déjà, c'est complètement faux de dire que les migrants qui fuient leur pays ne sont pas ceux qui viennent chercher du travail également. Justement, quand on accompagne les personnes qui sont dans ces situations de précarité-là, ils ont tous un parcours de vie qui est extrêmement chaotique. Et si vraiment on veut régler la question de leur sort, comme beaucoup de ces migrants viennent de pays d'Afrique, il suffirait par exemple de renoncer à la dette qu'on a, la dette qui les égorge, par exemple.
La suppression de la dette, c'est le même raisonnement.
Vous dites, il suffit de leur faire payer finalement un visa. Donc, c'est-à-dire que demander toujours aux personnes les plus vulnérables, de payer, moi, je dis, non, au contraire, qu'on renonce à la dette africaine.
Alors, mesdames, je vous propose, puisque nous n'avons plus le temps, de caler un autre débat dans les semaines qui vont suivre. sur la suppression de la dette pour les pays africains. Ça intéressera beaucoup nos auditeurs, évidemment. En attendant, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous deux, Emmanuel Auriol, économiste, enseignant-chercheur à la Toulouse School of Economics, auteur donc du livre « Pour en finir avec les mafias et si on légalisait », et Lorraine Questiou à mes côtés en studio, avocate et chargée de mission aux affaires juridiques du mouvement du Nid. Merci également à Florence Ponce et à Hélène Avril. On se retrouve demain pour un nouveau débat.
France 24.